Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque, peuplée de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, car il est placé sous le signe du podcaston, un événement caritatif réunissant plus de 300 podcasteurs et podcasteuses autour d'une cause commune, soutenir des associations caritatives. À cette occasion, j'ai décidé de mettre en lumière une association qui me tient à cœur particulièrement. C'est Lire et Faire Lire, programme national éducatif d'ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. J'interview, lors de cet épisode, Cécile Cornaglia, déléguée générale de l'association. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Cécile, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce micro. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous de l'association Lire et Faire Lire pour la mettre en valeur à l'occasion du podcaston. Donc voilà, vous travaillez depuis 2011 dans l'association et depuis un an, vous en êtes la déléguée générale. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la façon dont a été créée cette association, quelles en sont les missions et quel est votre rôle aussi au sein de cette association ?
Merci à vous pour l'invitation. Alors oui, Lire et Faire Lire, c'est une association qui va fêter ses 25 ans en 2025, qui a été créée qui a été cofondée par Alexandre Jardin sur une initiative qu'il avait vue à Brest il y a quelques années de cela. L'expérimentation consistait en fait à des retraités de l'enseignement national qui allaient lire des histoires aux enfants de manière régulière depuis plusieurs années. Et en fait, Alexandre Jardin et à l'époque Pascal Guéné, les deux personnes qui ont fondé Lire et Faire Lire, se sont dit que c'était une expérience à la fois simple et facile à essaimer. Donc, ils ont essayé de trouver des réseaux existants pour porter ce programme, Lire et Faire Lire. Et par le biais de rencontres diverses, ils se sont rapprochés de deux réseaux nationaux, la Ligue de l'enseignement et l'Union nationale des associations familiales, qui ensemble portent encore aujourd'hui le dispositif sur toute la France et même sur les territoires ultramarins. Et donc le principe est le même que l'expérimentation qui avait été vue à l'époque, à savoir créer du lien intergénérationnel. C'est pour ça qu'on a, avec des générations très éloignées, de type grands-parents, petits-enfants, et donc on a des bénévoles de plus de 50 ans qui vont lire des histoires à des petits groupes d'enfants, entre 2 et 6 enfants, très régulièrement, pour partager le plaisir de la lecture ensemble, et créer cette relation interpersonnelle, intergénérationnelle.
En quoi les missions de cette association, selon vous, sont-elles capitales pour notre société contemporaine ?
En fait, elles sont capitales pour deux raisons. La première, je pense, quand Alexandre Jardin et Pascal Guéné ont créé cette association, l'enjeu, c'était vraiment autour de l'enfance. Donner la possibilité à des enfants de rencontrer le livre, de rencontrer le plaisir de la lecture, et de garder ce plaisir à des moments assez transitoires, enfin assez réguliers tout au long de leur vie, dans les moments d'apprentissage, mais aussi dans les moments de leur vie personnelle. Donc ça, c'était vraiment le premier enjeu, et c'est celui qu'on poursuit toujours, puisqu'on essaye d'avoir un panel d'intervention très large, puisqu'aujourd'hui, on intervient auprès des enfants tout petits, des 10 mois, jusqu'à 12 ans, donc avec des enjeux différents à chaque fois en fonction de l'âge des enfants. Donc ça, c'est vraiment le premier. Et c'est vrai que la place du livre dans la vie d'un individu, on pourra en reparler peut-être, mais ça a beaucoup de valeur. En tout cas, tous ceux qui aiment lire sont convaincus de ça. Et donc l'idée, c'était de transmettre ça dès le plus jeune âge aux enfants. Et puis le deuxième enjeu sociétal qui nous est apparu et qui est aussi très important aussi aujourd'hui, c'est la place des seniors dans la société. On parle de bien vieillir, on parle de citoyenneté active, de formation tout au long de la vie aussi. Et c'est vrai que On a beaucoup de retours de bénévoles qui nous disent sentir des retours, sentir des regards, sentir des intérêts des enfants par rapport à ces séances de lecture. Mais on se rend compte aussi de ce que ça leur apporte à eux. Ils ont souvent des petites étoiles dans les yeux, ils ratent pas leur rendez-vous avec dans les structures. Des fois, ils multiplient les lieux d'intervention. Donc on sent que ça leur apporte aussi énormément à eux. Et ça leur permet d'être un acteur de proximité, puisqu'ils interviennent à côté de chez eux. Donc voilà, ils sont reconnus dans la rue, avec les enfants qui courent vers eux. Enfin voilà. Et ça m'émeut un peu d'en parler, parce que c'est vrai qu'on trouve ça très... On s'était dit que c'était important pour les enfants au départ. Et en fait, on se rend compte que c'est tout aussi important pour ces bénévoles.
Les bénévoles apprennent à la fois, évidemment, de leur contact avec les enfants, mais aussi à travers le cadre de l'association, qui les ouvre aussi à une certaine littérature qui, parfois, leur était un peu inconnue.
Exactement. On a vraiment une volonté de... Je trouve que le mot le plus juste, c'est maintenir une curiosité. Et se dire, on a des bénévoles qui sont très expérimentés aujourd'hui et qui sont très calés en littérature jeunesse. Ils échangent avec des éditeurs sur des salons du livre, avec des bibliothécaires, avec des libraires. Donc on a cette chance d'avoir des personnes passionnées et qui savent parler de ça avec même des professionnels du monde du livre. Mais l'idée, c'est de toujours leur dire, voilà, vous avez expérimenté ça, ça a super bien marché, mais regardez, il y a aussi ça. Et essayez, il faut tenter. Parce que l'objectif, il est encore double à ce moment-là. Il est à la fois de ne pas s'ennuyer dans son bénévolat. Ça serait très triste qu'on ait toujours le même livre qu'on répéterait toutes les semaines ou toutes les années. Et donc ça, c'est pour le bien-être du bénévole. Et puis, c'est aussi pour les enfants. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est rentré dans la littérature par des chemins différents. Et pour les enfants, c'est la même chose aujourd'hui. Donc il y en a qui vont aimer les contes, il y en a qui vont aimer le journal, il y en a qui vont aimer le documentaire, la poésie. Et donc en multipliant ces portes d'entrée, on essaye d'embarquer le plus d'enfants possible dans ce plaisir de la lecture.
En quoi est-ce important de mettre un livre entre les mains d'un enfant le plus tôt possible, selon vous ?
Alors, il y a plein de raisons pour le. Déjà, il y a le côté sensuel, c'est-à-dire que souvent les bénévoles nous racontent que après la lecture, ils leur laissent les livres à disposition, et donc il y a la manipulation de l'objet livre qui sont parfois doux, rugueux, enfin voilà, avec les sens qui s'éveillent. Après, il y a tout ce qui relève de la musicalité des mots. Les constructions de phrases aussi, enfin, ça apporte du vocabulaire, mais on enregistre énormément de choses par... c'est une ouverture au monde, en fait. Donc, c'est peut-être les premières raisons qui me viennent en tête sur le fait de faire rentrer le livre le plus tôt possible dans la vie des enfants. Et puis, on essaye aussi de se dire que plus on pallie les inégalités, moins il y en aura aussi en grandissant. Donc, si tout le monde a accès au livre très, très tôt... ils grandissent avec ça comme un petit bagage qu'ils vont enrichir tout au long de leur vie.
Est-ce que vous sentez depuis quelques années, ou peut-être pas, hein, c'est une vraie question, chez les plus âgés à qui vous lisez des livres, donc c'est, je dirais, les 10-12 ans, est-ce que vous sentez chez eux une démotivation dans la lecture, ou voilà, avec l'avènement des réseaux sociaux, un détournement, ou pas du tout, et en fait ça arrive plus tard, ou pas du tout d'ailleurs?
En fait, on a du mal à mesurer ça. Moi, ce que je peux partager aujourd'hui avec vous, c'est des temps de décrochage, effectivement. Et on sait qu'à la préadolescence, c'est pour ça qu'à un moment donné, le conseil d'administration de Lire et Faire Lire a choisi aussi de mettre un accent sur cet âge des 9-12 ans où on décroche de la lecture de livres. On ne décroche pas forcément de la lecture tout court parce qu'on lit sur les réseaux sociaux, on lit de manière générale, mais on ne lit pas forcément du fictionnel, on ne lit pas un roman ou un texte dans sa globalité. Et c'est vrai qu'il y a des temps comme ça de décrochage, alors que c'est des enfants à qui qui ont encore plaisir à écouter des histoires. Donc, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question de mode? Est-ce que c'est une question aussi de... On parle des fois de concurrence d'activité. On a trop de choses à faire, donc on choisit. Et donc, se dire que on met quand même des temps de lecture à voix haute auprès des enfants qui savent lire et où on a l'impression que ça décroche un peu, ben ça permet de les raccrocher. Après, c'est toujours compliqué de... On sème un peu des graines. Est-ce que ça va les faire raccrocher ou pas? Est-ce que ça fera des lecteurs Michel Petit, qui est anthropologue, qui est intervenu pour nous à maintes reprises, mais elle avait dit... quelque chose d'assez juste, je trouve, par rapport à cette question. C'est, elle disait qu'il n'y a pas de recette sur comment faire pour qu'un enfant devienne lecteur, mais que la lecture à voix haute reste l'une des voies royales d'accès à ce désir de lire. Et que le fait d'avoir un adulte en face de soi qui soit là pour ça, pour transmettre ça, sans jugement, sans contrainte, ça peut participer à cette ouverture sur le plaisir de la lecture.
Oui, d'ailleurs, ça me fait penser au livre qui s'appelle « Faites-les lire » de Michel Desmurges, qui disait que souvent, les parents abandonnent les lectures à voix haute une fois que leurs enfants savent lire, alors qu'au contraire, c'est pile à ce moment-là où il faut être derrière eux pour les faire lire, parce que dès qu'ils butent sur un mot ou qu'ils ne comprennent pas une tournure, ils vont laisser tomber, alors que quand ils sont en compagnie d'adultes, eh ben, ils peuvent en parler, leur demander ce que ça veut dire et continuer leur lecture. Que c'est pas parce qu'ils sont plus grands et qu'ils savent lire qu'il faut arrêter les lectures du soir en commun.
Mais j'ai envie de dire, nous en tant qu'adultes, on aime encore qu'on nous raconte des histoires.
Bien sûr.
Les podcasts, les nombreux podcasts qui sont disponibles aujourd'hui, toutes les histoires qu'on entend, qu'on écoute dans nos oreilles, peu importe où on est, on est des êtres qui avons besoin d'histoires. Et c'est vrai que cette idée ou je ne sais pas comment le nommer, mais le fait de dire tu sais lire tout seul, tu n'as plus besoin qu'on te lise des histoires, c'est là où il y a l'erreur, c'est-à-dire qu'on se prive d'un plaisir de partager ça encore avec cet enfant ou ce groupe d'enfants, et on se rend compte en fait qu'ils ne le demandent pas forcément, mais qu'ils apprécient. Lire à des préadolescents, ça peut être parfois complexe, hein, mais ils écoutent. C'est comme quand on lit à des bébés, en fait. Le bébé, il se carapate, il part à droite, il part à gauche, mais en fait, il entend, il revient, il choisit ce livre-là, il est capable, en fonction de son âge, de aussi rappeler des éléments de l'histoire. Donc, c'est vraiment une intention qui, est, je pense, est importante, pour tous les âges, en fait, pour tous les publics.
Maintenant, nous allons parler de vous, Cécile, si vous êtes d'accord. J'aurais voulu savoir quelle petite lectrice étiez-vous enfant? Quels ont été vos premiers pas dans la lecture? Quels souvenirs vous en avez?
Alors, j'ai des souvenirs de lectrice adolescente. Avant, je pense qu'on me lisait des histoires. J'ai des souvenirs comme ça de lecture avec ma maman et mon frère, par exemple. La lecture du soir, par exemple, les rituels, ou ma grand-mère qui nous lisait les fables de La Fontaine, ce genre de souvenirs-là, vraiment plus petites. Et après, j'ai le souvenir d'être une lectrice quand même assez assidue, comme si, quand je lisais mon livre, c'était mon espace à moi, en fait. Je sortais de cette vie, de ma vie, de mon quotidien, et... Je suivais les aventures comme beaucoup de lecteurs aujourd'hui. Hein. On s'identifie, on vit à la place du personnage. Je n'ai pas le souvenir de livres en particulier, mais je piquais dans les bibliothèques des parents, des grands-parents, des cadeaux qu'on me faisait aussi. J'allais un peu à la bibliothèque aussi. Voilà, mais j'ai le souvenir en fait, que ça a toujours fait partie de ma vie. En fait.
Auriez-vous un livre à me recommander qui a... changer votre vie ou qui vous a bouleversé particulièrement?
Alors, cette question est difficile. Un livre...
On
peut
en proposer plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a Le Petit Prince qui a bouleversé beaucoup de gens, mais c'est vrai que c'est un livre qui est assez formidable et qu'on a plaisir à lire à tout âge. Un livre plus récent, ça serait « Kilomètre zéro ». De Maud Ankawa. Ça m'a vraiment touchée, en fait. Je pense en fonction de ce qu'on vit dans nos vies et des étapes qu'on traverse, il y a des livres qui résonnent, et celui-là, il est tombé pile à un moment donné où j'avais besoin de remettre en perspective des choses, par exemple. Donc,
vous pouvez nous en parler 5 minutes ?
Oui, c'est l'histoire d'une personne qui, pour rendre service, va se retrouver en expédition à l'autre bout du monde et qui va cheminer, je pense que c'est le terme, avec tout ce qu'elle avait en partant en voyage, l'objectif de ce voyage et sa vie dans laquelle la vie qu'elle quittait et la vie qu'elle vit sur le moment. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de messages de sagesse, mais c'est vrai, c'est ça, elle est accompagnée par des personnes qui la font réfléchir en fait sur le sens qu'on peut donner à ses priorités, ses proches, son existence en fait. Dans un autre registre, il y a un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, mais qui me bouleverse, et je sais que vous en avez parlé aussi, c'est « Ce que le jour doit à la nuit ». Et c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres de Yasmina Khadra, et à chaque fois, il nous embarque vraiment dans ce... Et ce livre, ça fait très très longtemps, mais j'en parle encore...
Ah bah bien sûr, moi je pense qu'un bon livre qui nous a bouleversés, même si on ne l'a pas relu, il nous accompagne tout au long de notre vie.
C'est ça.
Donc même si on ne se rappelle pas de tout, en particulier dans les détails, ce n'est pas l'important. L'important, c'est le souvenir qui nous habite depuis qu'on l'a lu.
Et puis je trouve qu'il y a aussi beaucoup de richesse dans la littérature jeunesse, et on a la chance de voir beaucoup de choses, de lire beaucoup d'ouvrages. Et par exemple, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai découvert Arnold Lobel, qui est un auteur qui a écrit il y a très très longtemps. Mais ses livres, je trouve, ont une portée actuelle. Par exemple, je pense au livre Sauterelle. Pareil, sur un personnage, une sauterelle qui part à l'aventure, en fait, et qui décide de partir à l'aventure. Voilà, c'est des auteurs aussi qu'on a la chance de rencontrer et dont on aime chacune des œuvres.
J'y connais rien en littérature jeunesse, donc je suis ravie que vous me donniez quelques conseils. Donc je note, Sauterelle.
Il y en a vraiment beaucoup. La littérature jeunesse, elle est d'une richesse de par les textes, mais aussi de par les illustrations et de par la complémentarité qu'on peut avoir entre ces deux artistes-là. Et c'est vrai qu'il y a des livres qui résonnent très longtemps et qui parlent vraiment à tout le monde. Nous, on anime un comité de lecture au sein de Lire et Faire Lire pour produire une publication annuelle et donner une sélection de titres pour donner des pistes de lecture aux bénévoles. Et c'est vrai que ces comités de lecture, ils sont très joyeux parce qu'on parle de ce qu'on a aimé, de ce que les enfants ont ressenti. Et en fait, on se rend compte que même un livre qui est destiné à des enfants de 10 mois, on rit tous autour de la table, en fait. Y a vraiment une intelligence et un discours qui est universel, en fait.
Très mignon de se dire que, oui, effectivement, qu'un livre où il n'y a que des images nous fasse rire autant qu'un petit bébé. Écoutez, merci beaucoup pour cette sélection. Alors, dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut s'investir dans Lire et Faire Lire ? J'imagine qu'on peut aussi faire des dons. De toute façon, je mettrai toutes les références dans les notes de l'épisode. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'investir ?
Si vous avez envie de devenir bénévole Lire et Faire Lire, vous pouvez vous inscrire via la une du site internet et vous serez contacté par la coordination départementale. On essaye de faire en sorte que les bénévoles interviennent proche de chez eux, dans une proximité vraiment restreinte, c'est ce que je disais tout à l'heure, et en fonction de leur disponibilité. Donc il n'y a vraiment pas de critères. Vous pouvez donner votre disponibilité. On essaiera de faire en sorte de trouver la structure qui va bien.
Il n'y a pas de test.
Il y a des entretiens, il y a des formations de début d'engagement. Il y a des fois des tutorats, des binômes avec des anciens bénévoles, mais il n'y a pas de test, non. Après, si vous êtes une structure qui accueille collectivement des enfants et que vous avez envie de proposer à des bénévoles d'intervenir dans votre structure, pareil, il y a la même démarche sur la une du site internet. Tout type de structure peut convenir. On est vraiment, par contre, sur une dimension collective.
Oui, c'est ça.
Voilà, pour qu'on puisse constituer des petits groupes d'enfants. Et puis, effectivement, si vous avez envie de faire un don à l'association, vous pouvez, tout est expliqué sur la une du site.
D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, Cécile. J'étais ravie de parler avec vous, de discuter avec vous, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Pour faire un don à l'association Lire et Faire Lire, rendez-vous sur leur site internet lireetfairelire.org. Je vous mettrai tous les liens utiles en description de l'épisode. N'oubliez pas de soutenir le bon bouquin en parlant autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne lecture.